Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui a l'air vraiment parfaite sur le papier.
Oui, cette idée d'adopter une poule pondeuse, ce qu'on appelle une poule de réforme.
Exactement. On se dit que c'est le geste idéal, non ? Offrir une seconde vie à un animal et en plus avoir des œufs frais.
C'est ça, le combo parfait, a priori. Le geste à la fois généreux et un peu écolo.
Voilà. Mais est-ce que cette belle image tient la route ? Pour le savoir, on s'est plongé dans un article très détaillé du blog Poulailler Bio, mis à jour tout récemment, en décembre 2025.
Et l'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça. De voir les bons côtés, bien sûr, mais surtout de soulever le tapis pour regarder ce qui se cache dessous.
Les risques, les questions.
Exactement. Et d'ailleurs, l'article met tout de suite les pieds dans le plat en disant « Attention, ce n'est pas un geste anodin, c'est pas comme adopter un chaton ».
Ça implique beaucoup de choses pour la poule et pour la personne qui l'adopte.
Tout à fait.
Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier point que l'article soulève, c'est la fragilité de ces poules. Et honnêtement, c'est quelque chose auquel je n'avais pas vraiment pensé.
Ah oui, hein ?
Bah oui. On s'imagine une poule, c'est rustique, ça picore dans le jardin.
Sauf que là, on ne parle pas de n'importe quelle poule. On parle d'un animal qui sort d'un élevage intensif, qui n'a jamais vu l'herbe ni le soleil.
Et ça change tout.
Ça change absolument tout. Son organisme a été, en quelque sorte, programmé pour une seule chose, pondre dans un environnement totalement contrôlé.
D'accord.
Du coup, l'article liste plusieurs risques. Le premier, c'est la santé. Leur système immunitaire est souvent très affaibli.
Donc elles sont plus vulnérables.
Beaucoup plus. Aux maladies, aux parasites, comme les poux rouges, aux vers, et surtout, au stress.
Le stress, ça me paraît logique. Le changement doit être un choc incroyable pour elles.
C'est un choc immense, oui. Imaginez, passer d'un hangar bruyant avec lumière artificielle à un jardin ouvert. C'est une surcharge de tout.
Et l'alimentation aussi, j'imagine.
À l'alimentation, c'est le deuxième gros risque. Elles ont mangé la même chose, un aliment industriel très calibré, pendant plus d'un an.
Mmh.
Si on change ça du jour au lendemain, même avec de bonnes choses, des restes de cuisine, des graines, on peut leur provoquer des troubles digestifs très, très graves.
D'accord, donc même en pensant bien faire, on peut faire des dégâts.
Exactement. Et il y a pire, le risque le plus sournois, c'est ce que l'article appelle les maladies cachées.
C'est-à-dire ?
Une poule peut être porteuse saine d'une maladie. Le coryza, par exemple. Elle n'a aucun symptôme, mais elle est contagieuse.
Et si on l'introduit dans son poulailler ?
On peut contaminer toutes les autres et potentiellement tout perdre. C'est vraiment le scénario catastrophe.
C'est terrible. Et en plus de ça, il y a le comportement, le fait qu'elles soient craintives.
Oui, elles peuvent avoir beaucoup de mal à s'intégrer dans un groupe. Et la hiérarchie entre les poules, ça peut être très violent.
Bon, le tableau est assez sombre, je dois dire. On pourrait presque se dire « Ok, j'abandonne l'idée, c'est trop compliqué. Est-ce que l'article nous laisse avec ça ?»
Heureusement, non. Et c'est là sa grande force. Après le diagnostic, il nous donne une vraie boîte à outils pour l'adoptant responsable. Il propose des solutions concrètes.
Ah, ça m'intéresse. Quelles sont ces solutions ?
Il y a quatre mesures, quatre étapes vraiment fondamentales. La première, et c'est absolument non négociable, c'est la quarantaine.
La quarantaine, c'est-à-dire ?
Il faut isoler les nouvelles venues, totalement. Dans un enclos séparé, loin des autres, pendant au moins 3, voire 4 semaines.
D'accord. C'est une période d'observation, en fait.
C'est ça. Pour voir si une maladie se déclare, et aussi pour qu'elle s'habitue à leur nouvel environnement tranquillement, sans le stress du groupe.
C'est logique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième ?
Le deuxième, c'est la transition alimentaire progressive. On en parlait juste avant.
Il ne faut pas changer leur nourriture d'un coup.
Surtout pas. L'idéal, c'est de mélanger leur ancien aliment avec le nouveau. Et puis, sur une ou deux semaines, on diminue petit à petit l'ancien. Ça laisse le temps à leur système digestif de s'adapter.
D'accord. Donc, contraintes, transition alimentaire, et pour le choc psychologique ?
C'est le troisième point. Créer un environnement sécurisant. Au début, il ne faut pas les lâcher dans un grand jardin. Elles risqueraient de paniquer.
Il leur faut un petit coin à elles.
Exactement. Un petit parcours protégé. Un abri où elles peuvent se cacher, se sentir en sécurité. C'est crucial pour qu'elles prennent confiance.
Et la dernière clé ?
La dernière, c'est une surveillance attentive. Tous les jours. Il faut devenir un peu observateur. Regarder comment elles mangent, si elles boivent bien, comment elles se déplacent.
Le moindre signe bizarre.
Le moindre signe d'apathie, de plumage ébouriffé, hop, ça doit alerter. Et là, l'article insiste, on n'attend pas, on appelle un vétérinaire.
Ça demande un vrai investissement en temps, en fait. Ce n'est pas juste « j'ouvre la porte du poulailler ».
Pas du tout. Et l'article ajoute aussi d'être patient, bienveillant, et si possible, d'en adopter plusieurs en même temps.
Ah oui, pourquoi ?
Parce que si elles viennent du même élevage, elles se connaissent déjà. Elles se rassurent, elles se soutiennent. Ça peut tout changer pour leur adaptation.
Bon, on a donc un animal qui est fragile, qui demande énormément de soins, de patience. On fait tout ça en se disant que c'est pour la bonne cause.
Oui.
Mais c'est là que l'analyse nous emmène sur un terrain beaucoup plus surprenant. Elle pose une question, et je la cite, « Sous couvert d'une respectable et bonne intention, n'y a-t-il pas surtout une histoire de juteux bénéfices ?»
Et c'est le passage qui fait un peu mal. Parce que la question n'est pas juste lancée en l'air, elle est appuyée par des chiffres. Des chiffres assez bruts.
C'est-à-dire ?
L'article nous donne le prix d'une poule de réforme pour l'éleveur. Le prix que lui paye les abattoirs où elles finissent normalement.
Et c'est combien ?
Entre 6 et 15 centimes d'euros le kilo.
Pardon, le kilo ?
Le kilo, oui.
Mais une poule, ça fait à peu près 2 kilos, non ?
C'est ça. Donc, pour l'éleveur, ça représente au maximum 30 centimes par poule.
30 centimes ? C'est rien, en fait. Et on les revend combien lors des opérations d'adoption ?
Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Le prix d'adoption, c'est généralement entre 3 et 5 euros.
Ah oui, quand même. On passe de 30 centimes à, disons, 4 euros. L'écart est colossal.
Le rapport est de plus de 1 à 10. C'est cette différence qui fait que l'article parle de juteux bénéfices.
C'est vrai que c'est vertigineux. Face à ça, comment les organisateurs de ces adoptions se justifient ? J'imagine qu'ils ont des arguments.
Bien sûr. Et l'analyse les rapporte. En gros, ils expliquent que les 30 centimes, c'est juste le prix de la matière première, si on peut dire.
D'accord.
Eux, ils ajoutent des coûts. Le transport, qui doit être fait dans de bonnes conditions, parfois des frais de quarantaine chez eux, la communication pour annoncer les ventes, la gestion.
Et ils apportent un service, un conseil que l'abattoir ne fournit pas.
Voilà, c'est ce qu'ils appellent la valeur ajoutée, le conseil, le suivi, etc.
D'accord. Il y a des frais réels, mais est-ce que ça justifie un tel écart ?
C'est toute la question. Mais le point le plus important que soulève l'article, ce n'est pas tant de juger si c'est justifié ou pas, c'est le manque de transparence.
Ah !
La plupart des gens qui adoptent, ils le font par conviction, par éthique. Et ils ignorent totalement cette réalité économique. Ils pensent sauver une poule pour 4 euros.
Sans savoir que sa valeur de départ était de 30 centimes ?
Précisément. Le vrai problème, c'est cette opacité. On ne sait pas où va l'argent.
Et l'article demande plus de clarté, j'imagine.
Oui. Il dit que les organisations, que ce soit des assos ou des éleveurs, devraient être transparentes. Est-ce que les bénéfices retournent à l'éleveur pour améliorer son élevage ? Sont-ils réinvestis par l'association ? C'est ce flou qui crée la suspicion et qui donne l'impression qu'on exploite un peu la bonne foi des gens.
Et forcément, qui dit argent facile dit risque d'attirer des personnes mal intentionnées. J'imagine que l'article nous donne des clés pour éviter de tomber dans le panneau.
Oui, il y a toute une partie qui est un peu un guide de vigilance, une checklist pour repérer les potentielles arnaques.
Alors, premier conseil.
Le premier, c'est de se renseigner sur l'organisation. Qui sont-ils ? Est-ce une association connue, qui existe depuis longtemps ? Ont-ils une adresse, un numéro de téléphone ? Sont-ils clairs sur l'origine des poules ?
Une organisation qui reste vague sur tout ça, c'est un mauvais signe.
C'est un premier drapeau rouge, oui. Le deuxième point, c'est de se méfier des promesses qui sont trop belles pour être vraies.
Par exemple ?
Si on vous vend une garantie de santé absolue, c'est un mensonge. On vient de le voir, c'est impossible avec ces animaux.
Ou une production d'œufs immédiate.
Exactement. C'est un non-sens. Elles sont réformées, justement, parce que leur productivité baisse. Il leur faudra du temps pour se remettre à pondre, et ce sera sans doute plus irrégulier qu'avant.
C'est une question de bon sens, en fait.
Tout à fait. Et le dernier point, c'est d'analyser leur support de communication. Un site web fait à la va-vide, plein de fautes, c'est suspect.
Mmh.
Même s'il faut être prudent. L'article note, à juste titre, qu'avec l'IA, on peut créer des façades très professionnelles facilement. Donc il faut aussi regarder l'activité sur les réseaux sociaux. Une page créée la veille, sans avis, sans historique, ça doit alerter.
D'accord. Tout ça nous amène, après avoir vu les risques, l'argent, les arnaques, à la question de fond, je crois.
La question finale, oui.
Est-ce que ce geste individuel, adopter une ou deux poules, ça change vraiment quelque chose au système ? Ou est-ce que, comme le dit l'article, c'est une façon pour l'élevage intensif de verdir sa réputation à bon compte ?
C'est la question éthique qui chapeaute tout le reste. Est-ce qu'on ne fait que soigner un symptôme sans jamais s'attaquer à la cause ?
Et alors, quelle est la conclusion de l'analyse ? C'est oui ou c'est non ?
La réponse est nuancée. L'article ne dit pas « non, n'adoptez pas ». Il dit plutôt « oui, mais pas n'importe comment ». Il aboutit à une recommandation qui est très, très précise.
Et quelle est cette recommandation ?
Pour l'auteur, la meilleure option, la plus sûre, la plus transparente, c'est de contourner les grands réseaux d'adoption et d'aller voir directement un élevage bio local.
Directement à la ferme.
Directement à la ferme.
Et pourquoi ce serait mieux ?
Parce que ça coche toutes les cases. D'abord, la transparence. On va sur place, on voit les conditions de vie des animaux, on parle à l'éleveur. Il n'y a pas de flou.
On élimine les intermédiaires.
Voilà. On sait d'où vient l'animal et on sait où va notre argent. Et en plus, on soutient un circuit court et un modèle d'agriculture qui, par définition, est plus respectueux de l'animal.
C'est une façon de s'assurer que sa bonne intention ne soit pas dévoyée en quelque sorte.
C'est exactement ça. Que le geste ait un impact, même modeste, mais dans la bonne direction.
C'est une conclusion très claire, finalement. Si je résume, adopter une poule de réforme, c'est un acte qui est loin, très loin d'être anodin.
On peut le dire, oui.
Ça demande de la préparation, des connaissances, un esprit critique. C'est un vrai engagement personnel.
Il faut penser à la santé de la poule, exiger la transparence financière et s'interroger sur le sens de son geste.
C'est une belle idée, mais c'est une idée qui se mérite, en fait.
C'est une très bonne façon de le dire. Et pour aller un peu plus loin, ce que cette analyse nous dit sur les poules, ça ouvre une réflexion beaucoup plus large, je trouve.
C'est-à-dire ?
Elle nous pousse à vérifier l'origine, le circuit de l'animal qu'on accueille. Et cette exigence de transparence, de traçabilité, est-ce qu'on ne devrait pas l'appliquer à beaucoup d'autres choses ?
À tout ce qu'on consomme.
Exactement. Quelle est la véritable histoire derrière les vêtements qu'on porte, la nourriture qu'on achète ? Et la question finale, c'est quelle part de notre temps, de notre confort, on est prêt à investir pour connaître cette histoire et pour que nos actions soient vraiment alignées avec nos valeurs ?